Le livre des Proverbes, au chapitre 30. Proverbes, chapitre 30. La Bible dit, au verset 7, « Je te demande deux choses. » Ne me les refuse pas avant que je ne meure. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que dans l'abondance je ne te renie et ne dise « Qui est l'Éternel ?» ou que dans la pauvreté je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Amen. Voilà une prière que je trouve extraordinaire. Le Seigneur a dit dans Matthieu chapitre 6 de nous inquiéter de rien. Il nous a dit que le lendemain aura soin de lui-même, que nous, enfants de Dieu, nous ne devons pas nous attarder à nous inquiéter sur ce que nous mangerons ou bien comment nous nous vêtirons. Ces choses-là, ce sont les gens du monde qui le recherchent. Mais nous, nous devons chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et Dieu qui est bon nous donnera le minimum pour l'adorer, nous donnera le minimum pour avoir de quoi manger chaque jour. Et voilà que cet homme dit, « Seigneur, ne m'accorde ni pauvreté ni richesse, parce que dans une situation comme dans l'autre, je risque de mal me comporter. Si tu me donnes trop de richesse, je risque de te renier et de dire, « Qui est Dieu ?» Mais si tu me donnes trop de pauvreté, je risque aussi de mal me comporter et de voler. Je risque de ne pas obéir à ta loi. En quelque sorte, Seigneur, donne-moi le juste milieu. Donne-moi simplement ce qu'il me faut. Et c'est une prière, bien-aimée, qu'on ne retrouve plus beaucoup dans le monde chrétien parce que le chrétien veut être la tête et non la queue. Le chrétien veut être le fils du roi des rois. Je suis un prince, je ne dois manquer de rien. Ce qui n'est pas faux, bien-aimée. Mais ce qui n'est pas toute la vérité. Il y a une partie de la vérité, mais la Bible veut que notre vérité soit totale. Il y a des personnes qui sont appelées à être à l'aise sur le plan financier, et il y a d'autres personnes qui sont appelées à être moins à l'aise sur le plan financier, mais l'un comme l'autre, c'est pour la gloire de Dieu. Alors, cette personne, bien-aimée, ne demande ni pauvreté, ni trop de richesse. Mais la réalité que nous voyons aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens qui sont dans la richesse pour la gloire de Dieu. Il y a d'autres personnes qui sont pauvres aussi pour la gloire de Dieu. Il y a des chrétiens qui sont persécutés, enfermés dans des containers, obligés de se cacher dans des grottes, d'aller se cacher dans les forêts pour vivre leur foi chrétienne. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui n'ont de quoi manger peut-être une fois par jour. Il y a d'autres parce que le mari est emprisonné, la femme est restée seule avec les enfants. Et c'est une galère. Mais dans cette galère, il continue à louer le Seigneur. Alors, que ça soit dans la pauvreté ou que ça soit dans la richesse, le cœur de l'homme, sur un point de vue général, reste le même. Et nous avons souvent cru, bien aimé, je l'ai cru, que c'était quelquefois plus facile aux pauvres d'accepter le Seigneur. Mais là où je travaille, lorsque je côtoie des personnes sans abri, des personnes qui n'ont pas une bonne situation pour s'en sortir de la vie, et voient à quel point ils sont orgueilleux, voient à quel point quelquefois ils sont même méchants, je m'étonne. Je pensais que de telles personnes devaient être beaucoup plus gentilles que les riches, qui paraissent orgueilleux, qui paraissent se suffire à eux-mêmes. Mais même dans la pauvreté, l'homme affiche quelquefois une méchanceté très élevée, un orgueil très élevé. Vous vous rendez compte, bien-aimé? Je rencontre des personnes, quelquefois, qui passent toute la journée sans avoir rien à manger. Donc, le matin, ils viennent prendre leur douche, laver leurs vêtements et avoir un petit déjeuner. Et il y a des personnes, lorsqu'ils arrivent, vous leur donnez un morceau de pain. Moi, je ne mange pas le crouton. Mais je dis, mais c'est étonnant. Il n'a rien mangé, peut-être depuis deux jours. On lui présente un morceau de pain et il dit, je ne veux pas le crouton. Le crouton, c'est le bourron du pain. Il dit, non, moi, il faut que ça soit au milieu. Moi, je dis, mais c'est étonnant, il n'a rien à manger et en plus, il est encore exigeant. Il y a d'autres personnes qui arrivent, il n'y a plus de pain, on leur donne du céréales ou des gâteaux, je ne mange pas. Il y a d'autres encore, ils viennent, on leur sert le café. Alors comme le café, c'était un peu le fond du café, mais il le prend et puis il va le renverser tranquillement. Moi, je dis, mais c'est étonnant pour des personnes qui sont dans une situation de galère, mais qui refusent quand même l'aide. Donc, dans une situation, comme dans l'autre bien-aimé, cela ne veut pas dire qu'on sera meilleur. On peut être bon dans la pauvreté comme dans la richesse si nous marchons avec Dieu. Il n'y a que le Seigneur, dans une situation comme dans l'autre, qui peut nous donner la capacité à lui rendre honneur, à lui rendre toute la gloire. Bien souvent, nous avons vu, bien aimé, qu'il y a des personnes qui étaient monsieur tout le monde, qui avaient un train de vie tout à fait normal. Demain, peut-être il gagne au loto, il gagne au tiercé, ou bien il devient un grand chef d'entreprise. Bien aimé, c'est à peine s'il se souvient que vous avez fréquenté près de 10 ans ensemble. Lorsque vous vous croisez, c'est un bonjour, je dirais, de loin. C'est comme si vous vous êtes jamais connu. Il y a des personnes qui changent totalement dès qu'ils passent dans une autre étape. Et de l'autre côté, passer d'une autre étape, ça peut être aussi tomber dans la pauvreté. Et certaines personnes, lorsqu'ils sont dans la pauvreté, ils en veulent à toute la terre. C'est de la faute de tout le monde si aujourd'hui est dans la galère. Un homme me disait, oui, mais toi, tu sais où tu dors ce soir. Vous tous, le système, vous êtes dedans. C'est à cause du système que je suis dans la galère. Donc, pour lui, le système inclut les gens qui sont dans une bonne situation. Donc, il refuse de voir sa propre réalité, de voir ses propres fautes qui l'ont mené à être dans cet état, mais il accuse les autres. Donc, soit dans la pauvreté, soit dans la richesse, l'homme peut être amené à avoir un comportement différent, soit positif, soit négatif. Donc, le changement d'étape ou le changement de situation a une très grande influence sur le comportement de l'homme. Mais un homme peut rester stable, soit avec des richesses, soit sans richesses, parce qu'il est attaché à Dieu et que sa force et que sa richesse, sa joie, son bonheur, il ne le trouve qu'en Dieu seul. Ainsi, aussi bien qu'il puisse manquer du pain, son problème c'est d'être en communion avec Dieu. Qu'il puisse être milliardaire, son problème c'est que c'est Dieu qui fait sa joie. Nous lisons le psaume 131. Lorsque le Seigneur permet la pauvreté, c'est pour emmener l'homme à se confier davantage en lui, à se reposer totalement sur lui. Lorsque Dieu permet la richesse, ça peut être aussi pour glorifier son nom, mais en aucun cas pour que l'homme s'éloigne de lui. Donc, dans l'une situation comme l'autre, l'homme a besoin de Dieu pour pouvoir survivre et gérer cette situation. Pour gérer la pauvreté, nous avons besoin de Dieu. Pour gérer la richesse, nous avons besoin de Dieu. Puisque l'un comme l'autre peut nous perdre. Nous avons lu dans Proverbe 30, cet homme a dit, si tu me donnes trop de pauvreté, je risque de dérober et de renier ton nom. Mais si tu me donnes trop de richesse, je risque aussi de te renier et de dire, qui est Dieu? Donc, dans un cas comme dans l'autre, nous avons besoin de Dieu pour pouvoir gérer ces deux situations-là. Voilà ce que dit David au psaume 131. Cantique des degrés de David. Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop élevées pour moi. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Israël, mets ton espoir en l'Éternel dès maintenant et à jamais. David dit, je n'ai pas un cœur qui s'enfle, je n'ai pas le cœur orgueilleux. Je n'ai pas des regards hautains, Seigneur, non. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop élevées pour moi. Bien-aimés, considérons le contexte dans lequel David était. À l'époque des rois, le roi d'Israël avait un droit absolu sur toutes les terres, sur tout individu. Lorsque Israël demande un roi, Dieu lui dit, voici les droits que le roi aura sur toi. Il prendra tes fils, on fera des serviteurs. Il prendra tes filles. On fera des servantes, il prendra vos terres, tout ce qui est à vous reviendra au roi. Il aura tous les droits de vie ou de mort sur vous. Le peuple avait accepté. David était à un niveau où au-dessus de lui, il n'y avait que Dieu. Aucun homme n'était au-dessus de lui. Il avait tous les pleins pouvoirs. Mais malgré cet état, malgré cette position qu'il avait à l'époque, il reconnaît qu'il y avait des choses qui étaient au-dessus de lui. Il dit, Seigneur, je ne m'occupe pas de choses trop grandes, trop élevées pour moi. David était le roi, mais il reconnaissait qu'au-dessus de lui, malgré son statut de roi, il y avait quelque chose qui le dépassait. Il dit, je suis comme un enfant sevré auprès de sa mère. Et c'est là, bien-aimé, ce que Dieu nous demande. Quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes, que ce soit pauvreté ou abondance, que nous soyons comme des enfants sevrés, que nous soyons comme des enfants qui attendent et qui dépendent de leur père, dans la pauvreté, en manifestant la foi, que Dieu pourvoira, dans la richesse, en manifestant la foi, que tout dépend de Dieu, que Dieu peut tout, et que notre bonheur en réalité vient de Dieu et ne vient pas de la richesse que Dieu nous donne. Tout vient du Seigneur et non pas de ce qui va produire. Nous ne pouvons pas, bien-aimés, élever la bénédiction plus que la source. La Bible dit, mais ils ont renié Dieu. Au lieu d'adorer le Créateur, ils ont adoré la créature. Ils ont inversé les rôles. Ils ont pris ce que Dieu a créé pour en faire quelque chose d'extraordinaire. C'est pourquoi nous voyons que les Égyptiens voyaient le soleil comme leur Dieu. Au lieu de reconnaître celui qui avait créé le soleil comme quelqu'un d'extraordinaire, ils ont reconnu la chose d'extraordinaire comme étant leur Dieu. Ils ont pris le Nil pour Dieu. Toutes sortes de choses que Dieu avait créées, ils en ont fait leur Dieu. Et Dieu dit, c'est pourquoi il les a livrés à leur passion, il les a livrés à leurs pensées et ils se sont totalement égarés. Que ce soit dans la richesse, dans l'abondance, bien-aimés, ou dans la pauvreté, nous avons besoin de comprendre qu'il y a des choses qui nous dépassent. Et ces choses qui nous dépassent, bien-aimés, ne peuvent être que gérées que si Dieu nous en donne la capacité. Nous ne pouvons pas gérer quelque chose qui est au-dessus de nous. La Bible dit que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Tout ce que nous formons comme projet, sans que Dieu y soit associé, un jour ou l'autre, ça finira à terre. Ce que le Seigneur veut, c'est que tout fondement que nous posons soit posé avec lui. C'est que tout ce que nous formons comme projet soit formé avec lui et non loin de lui. Tout ce que nous pouvons chercher à faire sans associer Dieu, bien-aimés, nous allons nous perdre. L'homme a voulu être l'égal de Dieu. Il a voulu manifester qu'il était intelligent, qu'il était fort. La Bible dit que Dieu l'a laissé avec son intelligence. Puisque tu es intelligent, puisque tu es fort, vis. Bien-aimés, nous voyons aujourd'hui comment les âmes continuent à se vendre parce que l'homme est intelligent pour fabriquer des choses qui vont tuer son semblable. Nous voyons aujourd'hui comment la cupidité emmène des maladies, bien-aimés. Combien de maladies aujourd'hui qui sont contactées par les hommes sont dues aux produits chimiques qui sont mis dans les nourritures pour conserver sur du long terme, parce que l'homme veut à tout prix gagner, veut à tout prix faire du profit. Voilà comment il utilise l'intelligence, bien-aimés. Même l'intelligence que Dieu donne, si ce n'est pas Dieu qui la gère, alors elle nous conduira à nous éloigner de Dieu et à nous comporter comme des dieux. David a dit, je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop élevées pour moi. Bien-aimés, tout ce que Dieu a créé, tout ça dépasse l'homme. Nous ne pouvons pas aujourd'hui donner une explication claire. 1 plus 1 égale 2, bien-aimés. Quelque chose comme des mathématiques pour prouver tout ce que Dieu a créé. Nous constatons que la nature est là. L'air que nous respirons est là. Et nous reconnaissons par la foi que tout ça vient de Dieu. Mais tous ceux qui cherchent à comprendre comme des mathématiques, bien-aimés, jusqu'aujourd'hui, ils continuent à avoir des maux de tête. Car les profondeurs de Dieu, l'homme ne peut pas les saisir. Même nous-mêmes qui sommes nés de nouveau, enfants de Dieu, la Bible dit que nous connaissons en partie, mais que nous connaissons tout lorsque tout sera parfait. Donc, autant, bien-aimés, nous connaissons le Seigneur, mais nous ne connaissons qu'une partie, qu'une infime partie de Dieu. Et cette révélation sera totale lorsque nous serons au ciel. Alors, à combien pour forte raison ? Ceux qui n'ont pas reçu Dieu, ceux qui n'ont pas été régénérés par l'Esprit de Dieu, bien-aimés, comment pourront-ils saisir les choses de Dieu ? La Bible dit dans 1 Corinthiens 2 que c'est spirituellement qu'on juge les choses de Dieu. Donc celui qui n'a pas reçu l'Esprit de Dieu ne peut pas comprendre le Seigneur dans sa totalité, ne peut même pas comprendre 1%, mis à part si Dieu le lui révèle. Donc pour gérer les choses dans lesquelles Dieu nous place, bien-aimés, nous avons besoin du Seigneur, nous avons besoin de l'intelligence de Dieu, nous avons besoin de la sagesse de Dieu. Beaucoup, lorsqu'ils sont devenus riches, en même temps sont devenus fous. Beaucoup, lorsqu'ils sont devenus pauvres, en même temps ils sont devenus fous, bien-aimés. Beaucoup, à cause de la pauvreté, ont été remplis d'angoisse, rempli d'angoisse, amené à la dépression nerveuse pour finir au suicide. Parce qu'il se trouve dans une situation dans laquelle il devrait crier à Dieu, mais il préfère faire le fort et vouloir gérer. Nous ne pouvons pas gérer quelque chose qui nous dépasse. Et tel que Dieu nous a créés, tel que l'homme est constitué, bien-aimé, il a été créé avec des limites. Dès le commencement, lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il leur avait fixé des limites. Et nous sommes les descendants d'Adam et Ève, et nous avons aussi des limites que nous ne pouvons pas dépasser, bien-aimés. Et ces limites-là, lorsque nous cherchons à les gérer, nous finissons dans la folie. Nous finissons dans les tracasseries, nous finissons dans les tourments, nous finissons dans les murmures, parce que nous voulons à tout prix tout contrôler. Vous voyez, bien-aimés, même les hommes politiques, même les présidents de la République, beaucoup paraissent, mais en réalité, ils ne sont pas à l'aise. Parce que s'ils étaient à l'aise, ils ne seraient pas autour d'eux. Tant de gardes du corps, tant de systèmes compliqués, bien-aimés, pour se protéger. Il y a certains qui prétendent avoir une résidence principale, mais en réalité, ils n'y vivent même pas. Ils vivent dans des coins cachés parce qu'ils ont peur. Lorsque l'homme accède à un certain niveau et qu'il refuse d'accepter qu'à ce niveau-là, il a besoin de Dieu pour pouvoir gérer la situation, il court tout droit à sa perte. Dans la pauvreté, comme dans l'abondance, nous avons besoin du Seigneur pour gérer telle ou telle situation. La Bible dit que le jour du malheur, réfléchis. Le jour du bonheur, réjouis-toi. Car Dieu a créé l'un comme l'autre pareil. Soit le malheur, soit le bonheur, ce sont deux situations que Dieu contrôle. La Bible dit que c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Il est écrit dans le psaume 135 que Dieu fait ce qu'il veut. Tout ce qu'il veut faire, il le fait. Donc lorsque une personne se retrouve dans des problèmes, c'est parce que Dieu l'a permis. Lorsque une personne se retrouve dans le bonheur, c'est parce que Dieu l'a permis. Mais gérer le bonheur nécessite la sagesse de Dieu afin de ne pas dire un jour, mais qui est Dieu ? Moi, je suis heureux. Il ne me manque rien du tout. À quoi me sert Dieu ? C'est pourquoi le Seigneur dit qu'il est difficile aux riches d'entrer dans le royaume des cieux. Les riches se suffisent à eux-mêmes. Moi, je suis intelligent. J'ai inventé telle chose. Pourquoi j'aurais besoin de Dieu ? Moi, je suis déjà pauvre. Je suis au plus bas de la société. Eh bien, je n'ai qu'à mourir. À quoi me servirait d'avoir Dieu ? Si Dieu était bon, si Dieu existait, pourquoi m'aurait-il mis dans cette situation ? Donc, forcément, Dieu n'existe pas. Laissez-moi souffrir en paix. Laissez-moi mourir en paix. Dieu n'existe pas. L'un comme l'autre, bien-aimé, nous avons besoin de Dieu. Afin que dans la richesse, nous ne péchions pas contre Dieu. Nous ne nous détournions pas de lui, mais que nous puissions comprendre que tout vient de Dieu et que Dieu nous donne l'intelligence et la sagesse pour gérer les biens qu'il nous a donnés afin qu'on ne le renie pas. Et dans la pauvreté, nous avons besoin du Seigneur afin de ne pas aussi nous rebeller contre lui. David nous donne le bon conseil. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop élevées pour moi. Lorsque nous sommes dans une situation d'incompréhension, dans une situation qui nous dépasse. Bien-aimés, apprenons à tout décharger au pied du Seigneur. Apprenons à tout laisser au pied du Seigneur. Apprenons à demeurer dans l'humilité. David dit, je n'ai pas un cœur qui s'enfle. Donc je dis, je ne suis pas orgueilleux. Je ne veux pas être orgueilleux, Seigneur. Je reconnais que ça, c'est au-dessus de moi. Lorsque nous sommes dans des problèmes, bien-aimés, au lieu de nous rebeller, reconnaissant que nous sommes dans une situation qui nous dépasse. Seigneur, voici les hommes n'ont pas pu m'aider. Voici le docteur n'a rien pu faire. Voici, mes parents n'ont rien pu faire. Seigneur, je n'ai que toi. Fais quelque chose. Agis, Seigneur. Parce que si ce n'est pas toi, je vais me perdre. Mais l'homme préfère dire, Dieu n'existe pas. Parce que s'il existait, il n'aurait pas permis ça. S'il existait, il n'aurait pas permis que je souffre. Pourquoi j'ai tant souffert ? Pourquoi j'ai été abusé ? Pourquoi j'ai été volé ? Pourquoi ? Alors Dieu n'existe pas. Je préfère souffrir en silence et oublier l'existence de Dieu. Parce que si Dieu existait vraiment, tout ce que nous voyons sur la terre ne serait pas là. Bien-aimé, mais ce n'est pas Dieu qui a fabriqué les armes. Ce n'est pas Dieu qui a envoyé les gens pour voler, bien-aimé. Lorsque nous-mêmes nous étions enfants, ou même lorsque nous sommes encore adultes, bien-aimé, lorsque nous péchons, ce n'est pas Dieu qui descend pour dire « va pécher ». Lorsque nous le faisons, que nous faisons le mal, lorsque nous manifestons la colère ou la jalousie, personne ne peut dire que c'est Dieu qui m'a demandé d'être jaloux. Personne ne peut dire que c'est Dieu qui m'a demandé de me mettre en colère. Nous sommes responsables de nos actes. Mais lorsque tout va mal, on cherche le premier fautif chez Dieu. Mais lorsque tout allait bien, est-ce qu'on l'a loué ? Lorsque tout allait bien, est-ce qu'on s'est donné à 100% pour lui, bien-aimé ? Mais nous attendons en retour, lorsque tout va mal, pour dire Dieu n'existe pas, pour dire Dieu m'a oublié. Dieu ne nous a pas oubliés. Mais c'est à nous, bien-aimés, de nous humilier et de réaliser que quelle que soit la situation, quel que soit le changement d'étape dans lequel Dieu nous fait passer, que nous avons besoin de lui. Romains chapitre 1er. Verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans les désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leurs sens réprouvés pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarants, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les font. Dieu est en colère, bien-aimé, devant tous ceux qui retiennent injustement la vérité captive. La Bible dit qu'ils sont inexcusables parce que Dieu s'est révélé clairement à eux. Ils n'ont pas voulu adorer Dieu comme le Créateur et ils ont adoré la créature. Ils ont préféré, au lieu de servir Dieu, au lieu de se soucier de connaître Dieu, d'avoir des pensées mauvaises. Et Dieu les a livrés à leurs propres pensées. Vous voyez, bien-aimés, quelquefois l'homme peut avoir des idées, peut nourrir des idées dans lesquelles il croit avoir la solution. Il peut nourrir des idées dans lesquelles il croit pouvoir régler les solutions du monde. Bien-aimés, nous voyons des générations et des générations passent. Nous voyons des gouvernements et des gouvernements qui passent, mais le chômage continue. Lorsque ce soit la droite, la gauche ou n'importe qui, bien-aimé, les problèmes sont toujours les mêmes. L'homme n'arrive pas à satisfaire l'homme. Bien qu'ils aient des plans qu'ils proposent aux hommes, et les hommes vont voter parce que chacun choisit là où ça va l'intéresser, bien-aimé, et non même pas, je dirais, de choisir là où ça va profiter à l'ensemble, mais chacun vote là où ils se sont concernés directement. Et malgré toutes ces idées-là que les gens proposent, bien-aimé, les choses n'avancent pas. Parce que même les idées que nous pensons être bonnes, si elles ne sont pas communiquées par Dieu, si elles ne sont pas soutenues par Dieu, bien-aimé, ça ne produira rien du tout. Depuis combien de temps, bien-aimé, on crée toutes sortes d'organisations pour la paix mondiale, mais la paix n'existe pas. La paix n'est pas. Même dans des pays dits sans problème, eh bien, on achète des armes. Mais pourquoi un pays qui n'a pas de problème achète-t-il des armes? Pourquoi vend-il des armes? Pourquoi en fabrique-t-il, bien-aimé? Toutes ces idées-là que l'homme se fait en pensant apporter une solution ne produit que la mort parce que Dieu n'en est pas la source. L'homme a refusé de mettre son intelligence entre les mains de Dieu. Il a refusé de mettre ses capacités entre les mains de Dieu. Dieu a créé l'homme libre et dans cette liberté, l'homme l'utilise pour tuer son semblable. L'homme l'utilise pour se rebeller contre Dieu. Alors nous voyons, Dieu dit, mais puisqu'ils avaient des pensées, qui pensaient être bonnes. La Bible dit qu'ils se sont crus intelligents, ils se sont crus sages. Dieu leur a dit, avec votre sagesse, faites votre monde. Et nous voyons ce que le monde est devenu, bien-aimé. Donc même la sagesse que l'homme pensait avoir, croyait avoir, n'a rien produit parce qu'elle n'a pas été soutenue, elle n'a pas été utilisée selon le bon sens de Dieu. Aussi intelligent que nous pouvons être, autant de idées que nous pouvons avoir, bien-aimé, si cela n'est pas communiqué par Dieu, nous verrons un jour si cela produira la vie ou la mort. La Bible dit qu'un jour, tout ce que nous avons fait sera éprouvé par le feu. Et on saura ceux qui avaient construit sur le roc et ceux qui avaient construit sur la paille. Si toutes les idées, si tout ce que nous formons, Dieu n'en est pas à la source, bien-aimés, nous serons un jour égarés. Ces hommes-là se sont crus sages. Ils ont voulu se faire leur propre Dieu. Ils ont voulu gérer des choses au-dessus de leurs capacités. La Bible dit qu'ils ont commencé à faire homme avec homme ce qu'on ne fait pas. Ils ont commencé à faire du corps de la femme n'importe quoi parce qu'ils se sont crus intelligents, bien-aimés. La vie, telle que Dieu l'a créée, nécessite l'intelligence de Dieu pour pouvoir pleinement la vivre. Vivre la vie que Dieu a créée, prendre les instruments que Dieu a créés pour en faire ce qu'on veut, produira automatiquement la mort. Même si la mort physique ne se manifeste pas, bien-aimé, la mort spirituelle est certaine. Et la mort spirituelle automatiquement produira la mort physique, telle que nous l'avons vu, l'exemple à cause du péché d'Adam, qui est mort premièrement spirituellement. Et en mourant spirituellement, ça a emmené aussi la mort physique sur la terre. L'homme s'est cru intelligent. Et même les propres pensées qu'il avait, qu'il pensait maîtriser, il ne les a même pas maîtrisées, bien-aimé. Il a commencé à faire n'importe quoi parce qu'il a voulu gérer sa vie comme lui-même. Vous voyez, lorsque l'homme se sent fort en disant « je vais dans cette situation, je vais gérer. » Mon frère, attention, tu risques de t'éloigner, de dire « non, je vais gérer la situation. J'ai vu une jeune fille là-bas, je vais aller l'évangéliser. » Bien-aimé, certains sont partis évangéliser, mais en même temps, ils sont restés dans le monde. On dit « fais attention ». Non, je pense que comme ça, c'est la bonne méthode. Ils se sont crus sages, bien-aimés. Ils sont devenus fous. Ils sont sortis de la volonté de Dieu. Même l'idée, lorsque ça va dans le sens de la parole de Dieu, bien-aimés, doit être inspirée de Dieu. Beaucoup utilisent la parole pour justifier leurs péchés, pour justifier leurs actions. Mais bien-aimés, la Bible est esprit et vie. Et dans la direction du Seigneur, il y a aussi le temps du Seigneur. Combien même aujourd'hui, le mariage est une promesse pour tous, mais il y a aussi le temps du mariage. Certains veulent entrer alors qu'ils sont immatures, qu'ils ne sont pas prêts. Vouloir être riche, c'est peut-être un appel que tu as sur ta vie, mais il y a aussi le temps de Dieu pour entrer dans cette richesse-là. Tu penses que toi, c'est le moment, et tu deviens rebelle, tu deviens orgueilleux, parce que les gens semblent opposés à tes projets, et tu dis que moi, je veux. Mais en entrant, bien-aimé, hors du temps de Dieu, tu t'exposes à la mort. Ils se sont crus sages, ils sont devenus fous. L'intelligence de l'homme va faire croire qu'il est capable de tout, qu'il n'a pas besoin de Dieu pour gérer. Nous avons vu, bien-aimés, comment aujourd'hui le divorce se fait, bien-aimés, comme on vend des petits pains. C'est automatique. Moindre problème, le divorce, ça devient une solution première. Ce n'est même pas une solution alternative, mais c'est une solution première. Moindre souci, divorce. Et certains même prévoient même le divorce quand ils se marient en signant des contrats au cas où on se sépare. Ça, c'est à moi, ça, c'est à toi. Bien-aimé. Donc, ils entrent dans le mariage avec déjà la pensée qu'ils risquent de se séparer un jour. Ils se sont crus sages, ils sont devenus fous. Vouloir prendre les choses de Dieu et refuser Dieu pour gérer ces choses-là, bien-aimé, on court à la perte. Certains sont entrés dans le mariage en voulant en faire, en voulant le pratiquer avec leurs propres règles. Mais bien-aimé, si le mariage vient de Dieu, c'est normal qu'on utilise le mode d'emploi qui vient de Dieu aussi. Si le mariage venait des hommes, ben qu'on utilise aussi le mode d'emploi des hommes. Mais le mariage est un acte divin. Alors Dieu a donné aussi ses règles pour le mariage. Mais l'homme dit que non, si tu veux gérer le mariage, il faut faire de telles choses. Ils se sont crus sages, ils sont devenus fous. Ils ont fini par le divorce. Si ça ne marche pas avec ta femme, finalement prends un homme. Donc des familles construites avec des enfants qui s'entendaient bien, qui semblaient ne manquer de rien. Un jour, l'homme dit, « ma femme ne m'apporte plus rien du tout. » Et il décide de partir avec un homme. Un jour, la femme dit, « mon mari ne m'apporte rien du tout. » Elle décide de partir avec une femme. Dieu dit qu'il les a livrés à leurs passions infâmes, parce qu'ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Pendant qu'ils marchaient, dans les plans de Dieu, ils ont refusé de pratiquer ce que Dieu attendait. Ils ont refusé de gérer la situation selon les plans de Dieu. Ils ont voulu gérer à leur propre manière et ils sont devenus fous. David a dit, Seigneur, je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop élevées pour moi. Si le mariage est institué de Dieu, cela demande aussi le règlement de Dieu. Or, le règlement de Dieu, pour l'homme naturel, c'est quelque chose qui est au-dessus de ses portées, au-dessus de sa portée. Vivre la Bible, vivre la parole de Dieu, sans l'aide de Dieu, bien-aimé, c'est une folie. Et beaucoup de chrétiens qui sont charnels cherchent à vivre leur vie chrétienne avec leur propre force. Et ils deviennent fous parce que les choses de Dieu, on ne peut les vivre qu'avec la puissance et le soutien que Dieu nous apporte. On ne peut pas vivre une vie chrétienne en se basant sur notre propre force. David a dit, je ne m'occupe pas des choses trop grandes et trop élevées pour moi. Bien-aimé, entrer dans la vie chrétienne et vouloir vivre la vie chrétienne avec ses propres idées, c'est une chose qui est trop élevée pour nous. Vivre la vie chrétienne, bien-aimé, quand te gifle la droue, tu tends l'autre, quand te fait du mal et que tu pardonnes, c'est quelque chose qui est trop élevé pour l'homme. Il a besoin de Dieu pour vivre cette vie-là. Et refuser l'aide de Dieu bien-aimé pour avoir une vie chrétienne conforme à la parole de Dieu, c'est courir tout droit à la mort parce que Dieu nous montrera que toute chose est possible à cause de lui. Tous ceux qui chercheront à montrer qu'ils sont capables, à montrer qu'ils sont forts, Dieu leur montrera qu'ils ne sont rien du tout. Dieu leur montrera qu'ils ne sont rien du tout bien-aimé. Et nous ne sommes rien. Nous avons besoin du Seigneur, soit dans l'abondance, dans la pauvreté, quelle que soit la situation, pour les gérer, nous avons besoin de Dieu. 1 Timothée chapitre 6. Beaucoup disent, Seigneur, quand tu me béniras, je te servirai. Quand tu me donneras beaucoup de moyens, je donnerai beaucoup à l'Église. Bien-aimés, l'or et l'argent appartiennent au Seigneur. Ce que nous pouvons donner à Dieu, c'est ce qui vient de lui-même. Ne croyons pas, bien-aimés, qu'avec l'argent, on va aider Dieu. Seigneur, je vais aider ton œuvre, bénis-moi financièrement. Bien-aimés, on n'aide pas Dieu avec l'argent. L'œuvre de Dieu est une œuvre spirituelle. Et c'est spirituellement que nous pouvons faire avancer l'œuvre de Dieu. Mais si Dieu nous demande de donner des offrandes, qu'on obéisse, bien-aimés. Mais comme le frère qui m'a précédé a dit, que le plus important, c'est l'offrande de notre vie. Et celui qui a donné toute sa vie au Seigneur, automatiquement, il donnera tout ce qui découle de sa vie. Et ça, c'est quelque chose de logique. Donc, ne pensons pas, bien-aimés, que parce que Dieu nous bénira beaucoup aujourd'hui, qu'on va plus s'attacher à Dieu. C'est faux, bien-aimés, de croire que parce que je suis dans un problème, et que si Dieu règle ce problème-là, je vais m'attacher plus à Dieu. Si tu ne t'attaches pas à Dieu alors que ça ne va pas, quand ça ira, bien-aimés, tu ne t'attacheras pas à lui. Qu'on ne se trompe pas, bien-aimés, verset 9, 1 Timothée 6, 9. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Tous ceux qui cherchent à s'enrichir tombent dans un piège, dans la tentation et dans des désirs insensés. Bien-aimés, ceux qui désirent avoir la richesse, quelquefois d'une manière sincère, mais quelquefois aussi, on fait ces prières-là avec une certaine immaturité, sans calculer à l'avenir ce qui pourrait changer. Devenir riche sur le plan matériel, bien aimé, c'est quelque chose qui change toute la vie. Lorsqu'on n'a pas d'argent, il y a certaines choses qu'on ne pense pas faire. Comme on nous a donné l'exemple un jour, lorsque tu n'as pas d'argent, tu vas aller jouer au football dans le quartier. Dès que l'argent vient, tu penses aller jouer au golf, tu penses aller faire de l'équitation, parce que les moyens sont là. Donc, dès qu'il y a un changement d'étape, les idées aussi changent en fonction de cette situation. On cherche à s'identifier à ceux qui sont à peu près du même niveau que nous. Donc, totalement change. Et la Bible nous dit que tous ceux qui ont cherché à s'enrichir, leurs désirs aussi ont changé. Autrefois, ils mangeaient des spaghettis tranquillement à la maison. Aujourd'hui, il cherche simplement à manger du caviar ou à manger dans les restaurants. Pourtant, il était en bonne forme quand il mangeait avec les repas de sa femme. Aujourd'hui, il cherche une domestique pour lui cuisiner. Bien-aimé, tout change parce que la situation change aussi. Et la Bible dit qu'ils sont tombés dans des pièges et dans des tentations. Ça veut dire, bien-aimé, que pour passer à une autre étape, il faut aussi un temps de préparation pour pouvoir assumer cette étape. Avant d'entrer, je reprends l'exemple encore du mariage, eh bien, ça demande aussi un temps de préparation. Quelquefois, Dieu tarde parce qu'il sait que nous ne sommes pas prêts et qu'on entend dans le mariage aujourd'hui, on risque de faire des dégâts et de détruire la vie de couple. Alors Dieu va permettre un temps avant de nous faire entrer dans une autre étape pour nous préparer et nous donner la capacité de pouvoir les gérer. Avant de passer le bac, bien-aimé. Mais il y a tout un temps de préparation au lycée. Il y a tout un temps de préparation avant les examens pour nous permettre de gérer les sujets qu'on nous présentera. Mais l'homme refuse le temps de préparation. Il veut directement servir. Certains refusent le temps des épreuves. Ils veulent tout de suite avoir des responsabilités dans l'œuvre de Dieu. Et ils finissent par s'égarer, puisque entrer dans un domaine sans être préparé, bien aimé, on va se retrouver rapidement débordé. On va se retrouver dans un contexte à gérer des choses finalement qui nous dépassent. Parce que le temps de préparation a été soit refusé, ou le temps de préparation a été soit écourté. Nous voulons servir, faire les mêmes miracles que Jésus. Mais nous voulons refuser le temps de préparation par lequel le Seigneur est aussi passé. Toute la vie sur terre, près de 3 ans encore après l'âge adulte bien-aimé, avant d'entrer dans le ministère, c'est un temps que le chrétien d'aujourd'hui refuse. Lui, il veut les miracles tout de suite, il veut ressusciter les morts tout de suite, il veut être docteur de la loi tout de suite, il veut tout tout de suite bien-aimé. Comme la société, tout est fait pour aller vite. On ne cuisine plus directement micro-ondes, c'est fait, bien-aimé. Et après, on s'étonne d'avoir certaines maladies. Tout est fait pour accélérer parce qu'on refuse le temps de formation. Ceux qui sont appelés dans un domaine quelconque à changer d'étape, bien-aimés, Dieu devra nous préparer. Il y a des personnes qui peuvent être aujourd'hui dans des situations très compliquées. Mais lorsque Dieu permettait les petites épreuves, on les a refusées. Et lorsque les problèmes sont arrivés, on est totalement débordé. Parce que lorsque Dieu permettait des petites épreuves, on a passé notre temps à nous rebeller. Et lorsque le grand événement est là, on est totalement perdu et c'est la rébellion. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop élevées pour moi. David a accepté. Il a continué à louer. Il a continué à s'humilier devant Dieu. Alors qu'il avait été officiellement oint comme roi. Pendant plus de 10 ans, il a fui. Alors que c'était lui qui était le roi. Mais bien aimé, nous voyons son règne. Et de l'autre partie, nous voyons comment Saül, qui n'a pas eu ce temps de préparation, bien-aimé, nous voyons comment les choses ont terminé. Refuser d'être préparé pour Dieu avant d'entrer dans une étape, dans une situation dans laquelle Dieu veut encore nous travailler, bien-aimé, on va se retrouver rapidement débordé. Verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Bien-aimé, la Bible dit que Dieu nous a tant aimés qu'il a donné Jésus afin que nous ayons la vie éternelle. Non pas afin que nous ayons les biens de ce monde, mais que nous ayons la vie éternelle. L'apôtre dit à Timothée, toi homme de Dieu, fuis ces choses-là. Bien-aimé, il y a un passage qui nous demande de fuir le péché. Il dit, recherche la foi, l'amour, la patience, la douceur. Recherche tout ce qui concerne le royaume des cieux. Souvenez-vous, dans Matthieu 6, le Seigneur a dit, ne vous inquiétez pas des choses de la terre. Dieu sait que vous en avez besoin. Ces choses-là, ce sont les païens qui les recherchent. Mais vous recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Or, la Bible dit que le royaume et la justice de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la paix, bien-aimé. Ce sont toutes les vertus communiquées par le Saint-Esprit. Et cette même parole que le Seigneur avait donnée dans Matthieu 6, l'apôtre Paul le rappelle. Il dit, fuis les choses de ce monde, fuis la richesse, fuis les inquiétudes de ce monde et recherche la foi, recherche l'amour, la patience et la douceur, recherche le fruit de l'Esprit, recherche le royaume des cieux. Ne t'inquiète pas du lendemain, bien-aimé. Ne nous inquiétons pas. Vouloir entrer dans une autre étape sans l'approbation du Seigneur, bien-aimé, on sera rapidement débordé et on ne pourra pas gérer ces choses-là. Mais si le Seigneur nous exhorte à rechercher tout ce qui concerne le royaume des cieux, c'est parce que dès que nous sommes devenus enfants de Dieu, la Bible dit dans Éphésiens 1:13, nous avons été scellés du Saint-Esprit. Dans tout ce que Dieu nous demande de pratiquer, c'est parce que dès l'instant où nous sommes nés de nouveau, il nous a donné la capacité de pouvoir les gérer. C'est pourquoi ces choses-là, nous pouvons les rechercher. Mais rechercher autre chose pour lesquels Dieu ne nous a pas appelés directement à gérer, bien aimé, c'est courir tout droit à la mort. Nous avons besoin du Seigneur pour gérer tout ce qui est propre au monde. Mais pour tout ce qui est des choses spirituelles, Dieu nous l'a déjà donné. Et c'est à ça que nous devons nous attacher premièrement. Puisque, bien aimé, nous pouvons aujourd'hui avoir beaucoup d'argent, mais sans la sagesse, sans l'intelligence de Dieu, nous allons faire, excusez-moi du terme, n'importe quoi. Mais celui qui a la sagesse et l'intelligence pourra bien gérer ce que Dieu lui demande. C'est pourquoi certains utilisent pour justifier le fait de s'enrichir, il est écrit dans la parole de Dieu que l'argent répond à tout. Avec l'argent, on peut tout faire, bien aimé. Il faut semer, l'œuvre de Dieu a besoin. C'est écrit dans la Bible. L'argent répond à tout. Bien aimé, revoyons le contexte dans lequel Salomon dit ça. C'était un contexte matériel. Alors, si l'argent répond à tout, bien aimé, finalement, la foi répond à quoi? Qu'est-ce qui est plus grand entre l'argent et la foi? La foi, tout ce qui est des vertus spirituelles, permettra de gérer tout ce qui est lié au physique. Mais le physique ne peut jamais gérer ce qui est spirituel. L'argent ne peut pas gérer l'œuvre de Dieu. Mais la sagesse, l'intelligence de Dieu peut gérer tous les biens que Dieu donne. Bien aimé, qu'on ne se trompe pas d'ordre, qu'on ne se trompe pas d'objectif. Le côté spirituel est beaucoup plus important que tout ce que nos yeux peuvent voir. Nous avons besoin de la sagesse, de l'intelligence de Dieu pour gérer la situation dans laquelle Dieu nous met. Soit que nous nous appelons comme mauvaise, c'est-à-dire tout ce qui consiste à souffrir dans la chair, tout ce qui consiste à être éprouvé par le Seigneur, que nous appelons mauvais, mais qui en réalité est bénéfique, parce que ça nous libère des choses de ce monde et ça nous fait grandir spirituellement. Nous lisons Ecclésiaste chapitre 2. Ecclésiaste chapitre 2, à partir du verset 1er. J'ai dit en mon cœur, allons, je t'éprouverai par la joie, et tu goûteras le bonheur. Et voici, c'est encore là une vanité. J'ai dit du rire insensé et de la joie, à quoi sert-elle? Je résolus en mon cœur de livrer ma chair au vin, tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse et de m'attacher à la folie jusqu'à ce que je vois ce qu'il est bon pour les fils de l'homme de faire sous les cieux pendant le nombre de jours de sa vie. J'exécutais de grands ouvrages, je me bâtis des maisons, je me plantais des vignes, je me fis des jardins et des vergers, et j'y plantais des arbres fruitiers de toute espèce. Je me créai des étangs pour arroser la forêt où croissaient les arbres. J'achetai des serviteurs et des servantes, et j'eus leurs enfants nés dans la maison. Je possédais des troupeaux, des bœufs et des brebis, plus que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Je m'amassai de l'or et de l'argent et les richesses des rois et des provinces. Je me procurai des chanteurs et des chanteuses et des délices des fils de l'homme, des femmes en grand nombre. Je devins grand, plus grand que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Et même ma sagesse demeura avec moi. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail, et c'est la part qui m'en est revenue. Puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits, et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent, et il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Alors, bien-aimés, si on se souvient, lorsque Salomon est devenu roi, il a demandé au Seigneur de lui accorder la sagesse afin de gérer le peuple qui était si nombreux. Cette prière a fort plu au Seigneur, qui lui a dit, mais puisque tu n'as même pas demandé de l'or, de l'argent, tu n'as même pas demandé la mort de tes ennemis, voici, je te donnerai aussi des richesses. Je te donnerai au-delà de ce que tu m'as demandé. Ce que Salomon avait demandé était bon, bien aimé. La sagesse, c'était une prière très humble. Un roi qui ne demande pas même la mort de ses ennemis, qui ne demande même pas la paix, mais qui demande tout simplement que Dieu lui donne la capacité de gérer la nouvelle situation dans laquelle il se retrouve. David, son père, venait de mourir. Il passe roi, bien aimé. Et en étant roi, il avait tous les pouvoirs. Mais il demande au Seigneur la sagesse. Il savait que gérer le peuple d'Israël était compliqué. Il passait dans une autre situation. Sa vie changeait totalement. Il allait avoir à gérer de grandes responsabilités, des jugements importants. Et il a demandé la bonne chose au Seigneur. Et c'est ça qui a plu à Dieu. Il n'a pas demandé le superficiel. Il n'a pas demandé ce que peut-être d'autres auraient demandé. Mais il a demandé ce qui était important pour cette situation-là. Bien-aimés, lorsque nous sommes dans une situation, est-ce que nous faisons la bonne prière à Dieu pour demander ce qu'il est convenable? Lorsque nous allons entrer dans une autre étape, est-ce que nous demandons des bonnes choses au Seigneur? Ou bien est-ce que nous demandons forcément ce qui fera sortir notre tête au-dessus des autres? Ou est-ce que nous demandons ce qu'il fera de nous une personne à part? Ou bien ce qui fera de nous une personne beaucoup plus humble? Est-ce que nous demandons beaucoup plus d'amour lorsque nous sommes dans des persécutions dans le lieu de travail? Lorsque nous sommes dans les persécutions dans la famille, même dans l'église, bien-aimée, est-ce que nous demandons beaucoup plus d'amour au Seigneur pour pouvoir gérer cette situation? Ou nous demandons simplement que Dieu frappe, que Dieu fasse justice, que mes ennemis soient confondus? Bien-aimés, demander l'amour, c'est ce qu'il y a de meilleur. Parce qu'à partir de l'amour, bien-aimé, tout est possible. La Bible dit que l'amour supporte tout. Jésus-Christ est mort, il est ressuscité à cause de l'amour qu'il avait pour nous. Nous avons été sauvés à cause de l'amour que Dieu avait pour nous. Est-ce que nous faisons la bonne prière? Néanmoins, bien-aimés, voilà ce que Salomon nous dit. Tout ce que ses yeux ont désiré, il ne les a point privés. Tout ce que sa chair a désiré, il lui a donné, bien-aimés. Il était roi, il avait tous les pouvoirs. Mais il comprend que toutes ces choses-là ne sont vanité que vanité. Bien-aimé, Salomon était arrivé à une étape de sagesse où il n'avait aucun concurrent. Ce que Dieu lui avait donné est devenu par la suite une occasion de chute. Bien-aimé, lorsque Dieu donne, ce n'est pas pour nous égarer. Lorsque Dieu nous met dans une situation, c'est qu'il nous en a donné les moyens. Mais quand bien même il nous en donne les moyens, il nous laisse toujours libres de pouvoir exercer ce moyen-là. Salomon était libre d'exercer cette sagesse pour construire dans l'œuvre de Dieu. Mais à un moment donné, il a utilisé cette sagesse pour se glorifier, pour être considéré comme le plus grand, pour être considéré comme le plus beau, comme le plus fort. Il a pris des femmes en grand nombre, même des femmes étrangères, qui ont fini par le détourner du plan de Dieu et l'amener à adorer d'autres dieux. Pourquoi? Parce que ce que Dieu lui avait donné pour gérer, il l'a utilisé pour lui-même. Bien-aimé, notre vie ne nous appartient pas. La situation dans laquelle Dieu nous place, si c'est Dieu qui nous a placés, c'est-à-dire que Dieu aussi veut gérer cette situation. Et nous, nous sommes simplement des instruments que Dieu utilise pour que son nom soit glorifié. Que ce soit dans l'abondance ou dans la pauvreté, permise par Dieu, bien-aimé, automatiquement, si c'est permis par Dieu, c'est qu'il nous en a aussi donné les moyens pour pouvoir le gérer. Ne soyons pas comme Adam, bien-aimé, à qui Dieu a donné des responsabilités. Et lorsqu'il a péché, Dieu lui dit, mais Adam, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est la femme que tu as mise à côté de moi. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Mais l'argent, tu m'as donné trop d'argent, Seigneur. Voilà, maintenant, je suis tombé. Seigneur, mais non, je suis trop belle, je suis trop beau. Voilà, maintenant, je suis tombé à cause de Dieu. Bien-aimé, non. Dieu nous a laissés libres. Adam était libre d'exercer l'autorité de Dieu, d'exercer ce que Dieu lui avait donné pour rester pur devant le Seigneur. Et Salomon avait cette même liberté, malgré la sagesse que Dieu lui avait donnée, de pouvoir gérer convenablement et de rester dans la droiture avec le Seigneur. Et tout ce que, là où Dieu nous fait passer, bien-aimé, même si c'est une épreuve qui est difficile, bien-aimé, personne ne pourra justifier, Seigneur, c'était trop dur, moi, il fallait que je pêche. C'était trop dur, je n'ai pas pu résister, il fallait que je gifle la personne. Bien-aimé, ça ne tiendra pas devant Dieu. La Bible dit qu'il ne permettra pas qu'on soit tenté au-delà de nos forces. La situation dans laquelle Dieu nous met aujourd'hui, c'est qu'il nous a donné les moyens de pouvoir en sortir. Il nous a donné les moyens de pouvoir gérer cette situation. Il a dit, je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin, mais je viendrai à vous. Dieu est avec nous dans toutes les situations dans lesquelles Dieu nous place. Et Salomon a refusé à un moment donné de servir Dieu convenablement avec les moyens que Dieu lui avait donnés. Et bien aimé, voyons la conséquence, toujours au chapitre 2, au verset 17. Et j'ai haï la vie, car ce qui se fait sous le soleil m'a déplu. Car tout est vanité et poursuite du vent. J'ai haï tout le travail que j'ai fait sous le soleil et dont je dois laisser la jouissance à l'homme qui me succédera. Et qui sait s'il sera sage ou insensé? Cependant, il sera maître de tout mon travail, de tout le fruit de ma sagesse sous le soleil. C'est encore là une vanité. Et j'en suis venu à livrer mon cœur au désespoir à cause de tout le travail que j'ai fait sous le soleil. Car tel homme travaille, a travaillé avec sagesse et science et avec succès, et il laisse le produit de son travail à un homme qui ne s'en est point occupé. C'est encore là une vanité et un grand mal. Que reviendrait-il en effet à l'homme de tout son travail et de la préoccupation de son cœur, objet de ses fatigues sous le soleil? Tous ses jours ne sont que douleur et son partage n'est que chagrin. Même la nuit, son cœur ne se repose pas. C'est encore là une vanité. Il n'y a de bonheur pour l'homme qu'à manger et à boire et à faire jouir son âme du bien-être au milieu de son travail. Mais j'ai vu que cela aussi vient de la main de Dieu. Qui en effet peut manger et jouir si ce n'est moi? Car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie. Mais il donne au pécheur le soin de recueillir et d'amasser afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. Bien-aimé, dans ce verset 26, il y a une chose qui est extraordinaire parce que nous voyons les deux sortes de vie par lesquelles Salomon est passé. Il dit que l'homme qui est agréable à Dieu, Dieu lui donne la sagesse. Salomon a été agréable à Dieu lorsqu'il a prié ainsi et Dieu lui a accordé parce que l'esprit dans lequel il était, l'adoration dans lequel il était, l'humilité dans lequel il était, a poussé Dieu à l'exaucer et à lui accorder cette sagesse-là. Mais il dit encore, mais l'homme pécheur, il donne au pécheur le soin de recueillir et d'amasser afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. Vous voyez ce que dit Salomon entre le verset 17 et le verset 26. Il dit que finalement, j'ai haï tout ce que j'ai fait. J'ai réalisé que j'ai passé du temps à construire. Mais en raisonnant, je me dis que je vais mourir et d'autres vont venir en profiter. Peut-être qu'ils n'auront même pas travaillé. Peut-être qu'ils n'auront rien fait. Bien-aimé, il est écrit dans un psaume que même lorsque le bien-aimé de Dieu dort, eh bien Dieu le comble, Dieu le bénit, bien-aimé, sans effort. Et Salomon dit, mais tout ce que j'ai fait, finalement, c'est quelqu'un d'autre qui va en profiter. Finalement, toutes ces choses-là sont vanité et poursuite du vent. Salomon était au commencement comme quelqu'un de juste. Dieu lui a accordé la sagesse. Mais lorsqu'il s'est détourné de Dieu, lorsqu'il a péché en allant adorer d'autres dieux, comme lui-même il dit, il a amassé pour que d'autres viennent en profiter. Parce qu'il n'était plus dans cet état de juste devant Dieu. Il était comme un pécheur qui allait se prosterner auprès d'autres dieux. Et finalement, il dit, mais finalement, tout ce que j'ai fait, ce sont les autres qui vont en profiter. Et c'est comme ça, bien-aimé. Et nous voyons que si Salomon est arrivé à raisonner à ce point-là, bien-aimé, c'est qu'il était dans un moment où il ne vivait plus pour Dieu. Parce que celui qui vit pour Dieu, il amasse. Il n'a pas le souci de se dire, mais finalement, tout le travail que je fais pour Dieu, d'autres vont venir. Son problème à lui, il l'a fait parce que c'était la volonté de Dieu. Et il a la foi qu'après lui, Dieu utilisera encore pour sa gloire. Mais celui qui a amassé sans servir Dieu aura le souci de se dire, mais finalement, tout ce que j'ai fait, soit il va chercher à tout dilapider avant de mourir, ou il va tout chercher finalement à dispatcher pour qu'après lui, il soit certain que personne n'en profite. Voilà. Il va tout détruire, comme ça, personne ne va en profiter. Et Salomon a réalisé cela. Finalement, j'ai travaillé tout le travail de mes mains avec souffrance et ce sont d'autres qui vont en profiter. Mais celui qui est sage, celui qui est agréable à Dieu, Dieu lui accorde la sagesse. Bien-aimé, dès l'instant où Salomon s'est mis dans une position où il s'est dit « je suis capable d'eux », bien-aimé, les choses l'ont dépassé. Et lui, qui était si sage, des rois faisaient des kilomètres pour venir l'écouter. Des milliers de personnes faisaient des kilomètres pour venir l'écouter. Une personne sage, le roi d'Israël, a fini par se prosterner devant d'autres dieux. Qui d'autre que lui pouvait comprendre réellement qui était Dieu? Dieu lui avait donné la sagesse pour qu'il comprenne pleinement comment était Dieu. Qui d'autre que Salomon, à cette époque-là, pouvait comprendre les profondeurs de Dieu? Mais malgré cela, il a fini par aller se prosterner auprès d'autres faux dieux bien-aimés. Et si nous ne sommes pas vigilants, combien même Dieu nous bénira, bien-aimés, nous risquons de nous égarer si nous ne gérons pas la situation dans laquelle Dieu nous place avec les armes de Dieu, en gardant cette humilité que tout vient du Seigneur et nous ne sommes que des instruments. L'exemple de Salomon nous parle, bien-aimés. L'exemple de Adam nous parle aussi. Adam, qui a été créé à l'image de Dieu. Il a refusé de se soumettre au Seigneur. Il a refusé d'utiliser les moyens que Dieu lui avait donnés. Et nous voyons, bien-aimés, les conséquences aujourd'hui du péché d'Adam sur toute l'humanité. Parce qu'il s'est cru intelligent, ou bien il a voulu simplement être plus grand. Satan lui a dit, mais Dieu sait que le jour où tu mangeras ça, eh bien, tu deviendras comme lui. Adam a refusé de se contenter de ce que Dieu lui avait donné. David a dit, je ne m'occupe pas des choses trop grandes pour moi, trop élevées pour moi, Seigneur. Si ça c'est trop grand, ben alors c'est toi qui vas t'en occuper. Adam a refusé de dire comme David, je ne m'occupe pas des choses qui me dépassent. Il a voulu entrer dans les choses qui le dépassaient, bien-aimé. Dieu ne l'avait pas invité là. Dieu ne l'avait pas appelé là. Dieu ne l'avait pas créé pour ça. Il a voulu s'occuper de ce qui était trop élevé pour lui. Et ça a été, bien-aimé, un aller simple. Et la mort est entrée, le péché est entré, les maladies sont entrées, les catastrophes naturelles sont entrées, parce qu'il a voulu s'occuper des choses qui étaient trop grandes et trop élevées pour lui. Nous lisons Ésaïe chapitre 14. Verset 12. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'Assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur les sommets des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ézéchiel 28. Verset 11. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu. Je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre au spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissaient parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit à rien, tu ne seras plus à jamais. Amen. Voilà deux passages qui nous parlent de Satan. À quel niveau Satan était lorsque Dieu l'avait créé? Il était un ange magnifique, revêtu de beauté. Et la Bible dit qu'à cause de cette beauté, il s'est dit en son cœur, je monterai aussi au même niveau que Dieu. À cause de sa beauté, il a voulu s'élever au-dessus de Dieu. Et Dieu l'a précipité. Satan a refusé l'état dans lequel Dieu l'avait donné. Il a voulu arriver au niveau de Dieu, bien-aimé. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop élevées pour moi. Dieu a créé les hommes. Dieu a créé les anges. Il a créé les animaux avec certaines limites. Vouloir dépasser la limite dans laquelle Dieu nous a placés, bien-aimé, c'est courir tout droit à la mort. Je le disais tout à l'heure, David était roi. En Israël, au-dessus de lui, il n'y avait personne. Mais lui reconnaissait qu'il y avait quelque chose qui le dépassait. Ce que David avait reconnu, Adam a refusé de le connaître. Satan a refusé de le reconnaître. ils ont voulu faire des choses, ils ont voulu gérer des choses au-dessus d'eux. Parce que Dieu les avait mis, avec, ils avaient créé avec une certaine capacité, avec une certaine intelligence. Ils ont voulu aller au-dessus de Dieu. Bien-aimés, la bénédiction de Dieu, la Bible dit dans Proverbes 10, 22, elle enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Lorsque Dieu bénit, bien-aimés, sa bénédiction n'amène pas à la mort. Sa bénédiction est faite pour produire la vie. Nous voyons le cas de Adam. Nous voyons le cas de Satan. Nous voyons le cas d'Ecclésiaste. Nous voyons les conseils que l'apôtre Paul a donnés à Timothée. Pourtant, toutes ces situations, telles que c'est écrit dans Ecclésiaste, c'est Dieu qui les crée. Le bonheur comme le malheur, la richesse comme la pauvreté, c'est Dieu qui crée toutes choses. Bien-aimés, on nous a enseigné sur la valeur des choses. Celui qui sait reconnaître la situation dans laquelle il est, elle est permise par Dieu, bien-aimé, il se réjouira. Le plus important, c'est d'être en accord, en communion avec Dieu, quelle que soit la situation. Ne pas accepter, ne pas le reconnaître, bien-aimé, c'est se détourner du plan de Dieu pour notre vie. Et cette situation, pauvreté comme abondance, est permise par Dieu. Mais bien-aimé, tout ce qui est permis par Dieu, pour nous qui l'avons connu, c'est une bénédiction. Ce que nous pouvons appeler épreuve, c'est une bénédiction, bien-aimé. La Bible dit que les apôtres se réjouissaient d'avoir été persécutés à cause du nom de Jésus. Être dans l'épreuve permise par Dieu, c'est une bénédiction. Parce que l'épreuve de Dieu a pour but de nous faire avancer, a pour but de nous faire connaître Dieu davantage, a pour but de nous amener de révélation en révélation, de gloire en gloire avec le Seigneur. Donc c'est une bénédiction que de vivre des moments difficiles, parce que derrière ces moments difficiles, Dieu prépare quelque chose d'extraordinaire, bien-aimé. Donc l'épreuve permise par Dieu, ce n'est pas un malheur, comme nous pouvons nous en lamenter quelquefois. Et les bénédictions permises par Dieu, sur le plan matériel, eh bien, sont aussi des bénédictions. Mais les deux cas, bien-aimés, nous ne devons pas nous dire que Dieu privilégie l'un plus que l'autre, que être dans des situations difficiles, c'est forcément un jugement de Dieu. C'est faux, bien-aimés. C'est faux. Dieu peut donner des richesses à un homme aussi pour se perdre. Lorsque la puissance d'égarement vient, que la personne, Dieu sait qu'elle ne reviendra jamais à lui, il peut la bénir même au centuple. Cette personne-là va se réjouir de ça. Mais bien-aimé, il y a une parole où le Seigneur dira, vous avez votre récompense. Il y en a qui préfèrent avoir la récompense sur la terre. Il y a d'autres qui préfèrent attendre la récompense du ciel. La récompense sur la terre, bien-aimé, la Bible dit que le ciel et la terre passeront. Mais la récompense du ciel, la Bible dit que c'est un trésor qu'aucun insecte, aucune chose ne peut atteindre. Elle demeure pure, elle demeure devant Dieu, bien-aimé. Et c'est cette récompense-là que nous, enfants de Dieu, nous devons espérer. Maintenant, si Dieu nous donne des récompenses sur la terre, que son nom soit béni, mais que ces récompenses sur la terre soient gérées avec les sentiments de Dieu, soient gérées avec le caractère de Dieu. Nous lisons 1 Pierre chapitre 4. Toutes ces situations-là, bien-aimé, dans lesquelles Dieu avait créé Adam, avait créé Ève, qu'il avait créé Satan, n'avait pas pour but de les détourner de sa face. Dans beaucoup de situations dans lesquelles nous pouvons être aujourd'hui, où nous sommes considérés des hommes, où nous sommes élevés dans la société, où nous sommes élevés dans l'Église, bien-aimés, lorsque Dieu le permet, c'est parce qu'il nous en a aussi donné le moyen. Et il n'y a aucune excuse qui tiendra en disant que c'était trop. Dieu ne peut pas nous donner trop, bien-aimés. 1 Pierre, chapitre 4, au verset 12. Mais bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés par le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme un meurtrier ou un voleur ou malfaiteur pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de son nom. Amen. Réjouissez-vous de souffrir afin d'avoir part aux souffrances de Christ. Bien-aimé, vous voyez, pour ceux peut-être qui ont fait du sport, c'est le seul exemple qui me revient. Lorsque l'équipe dans laquelle on était joué, à la fin du match, l'équipe gagne. Mais si tu n'as pas joué, tu n'as même pas le même goût que la victoire, bien-aimé. Ceux vraiment qui sont les plus joyeux, c'est ceux qui ont joué, qui ont transpiré, qui ont mouillé le maillot. Mais toi qui n'as pas été sélectionné, même si c'est ton club, même si c'est ton équipe, il y a quand même une déception qui est là. Bien-aimé, c'est une déception que beaucoup risquent de vivre en refusant de participer aux souffrances de Christ, en refusant de participer à l'œuvre de Christ. L'apôtre dit à Timothée, « Efforce-toi d'être toujours éprouvé, comme un serviteur qui n'aura point à rougir. » C'est-à-dire, tu as tout donné, tu as fait le maximum et tu auras ta récompense. Beaucoup vont peut-être être sauvés in extremis, mais je ne sais pas si au ciel, bien-aimé, la joie ou en tout cas les choses seront pareilles. Il y a ceux, bien-aimés, qui auront tout donné pour Dieu. Et il y aura certainement une joie particulière. Le Seigneur nous encourage, bien-aimés, les souffrances que Dieu permet dans notre vie, acceptons-les avec joie, afin de participer aux souffrances de Christ. Ce que Dieu permet afin de nous perfectionner, bien-aimés, c'est une grande bénédiction. Jacques nous dit que nous devons recevoir les épreuves avec joie. Avec joie, bien-aimés, c'est une bénédiction les épreuves qui sont permises par Dieu. Ce n'est pas un jugement. Ce n'est pas le fait que Dieu nous ait abandonnés, qu'il nous ait mis de côté. Bien-aimés, c'est faux. Mais la bénédiction qui vient de Dieu, la Bible dit, il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Proverbe 10, 22. La bénédiction vient de Dieu. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Bien-aimés, le chagrin a pour but de nous rendre tristes. Le chagrin rend la vie difficile. Le chagrin amène les pleurs. Le chagrin amène la tristesse. Le chagrin amène la colère. Mais la bénédiction de Dieu, bien-aimé, est faite pour produire l'amour, la joie, la paix, le bonheur. Toutes les vertus que le fruit de l'esprit peut manifester, bien-aimé, c'est à ça que sont appelées les épreuves, les souffrances permises par le Seigneur. Mais il y a d'autres bénédictions. Comme la Bible nous le dit dans Deutéronome 28, si tu obéis à la voix de l'Éternel, tu seras béni dans les champs, tu seras béni dans la ville, tu ne manqueras pas de pain. Bien-aimé, c'est aussi une bénédiction de Dieu. La Bible dit que celui qui mange, c'est pour Dieu qu'il mange. Et Dieu aussi l'a accepté. Celui qui ne mange pas, c'est aussi pour Dieu qui ne mange pas. Donc, celui qui ne mange pas ne doit pas mépriser celui qui a reçu de Dieu. Et vice-versa, bien-aimé. On ne peut pas envier une personne que Dieu a bénie d'une manière matérielle. Nous voyons la bénédiction en fonction de ce qui va satisfaire la chair. Alors, celui qui est dans l'abondance, on va juger qu'il est plus heureux que celui qui est dans les épreuves. Bien-aimé, l'un comme l'autre, il vit pour Dieu et il rend grâce. Celui qui est dans la disette, il est pour la gloire de Dieu. Celui qui est dans l'abondance, il est pour la gloire de Dieu. Et Dieu se glorifie dans l'un comme dans l'autre, bien-aimé. Qui aujourd'hui, bien-aimé, peut dire qu'il a été moins riche que le Seigneur? Le Seigneur dit que même les animaux savent où dormir, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où poser sa tête. Les apôtres ont été dans la disette comme dans l'abondance. Ils ont passé des années dans les prisons. Bien-aimés, combien d'entre nous ici avons été en prison à cause du nom de Jésus? Qui lève la main ce matin, bien-aimés. Combien d'entre nous a été fouetté à cause du nom de Jésus? On n'est pas arrivé à cette étape-là, bien-aimés, mais nous sommes arrivés à des étapes de rébellion extraordinaires. Des étapes de murmure contre Dieu extraordinaires, bien-aimés. Celui qui est béni d'une façon matérielle, bien-aimés, ça ne veut pas dire que Dieu l'a plus accepté que celui que Dieu a permis d'épreuve. L'un comme l'autre, il vit pour Dieu. Il vit pour la gloire de Dieu, bien-aimés. Le plus important, c'est que dans une situation comme dans l'autre, on reconnaît que nous sommes dépassés. L'épreuve me dépasse, Seigneur, soutiens-moi. Je ne veux pas gérer ça avec mes moyens parce que c'est quelque chose qui me dépasse. Seigneur, je suis attaqué. Je sens que je suis persécuté par des esprits. Mais bien-aimé, les esprits, on ne les combat pas avec des moyens humains. On les combat avec des moyens spirituels. Or, les moyens spirituels appartiennent à Dieu. Dieu nous mettra dans des situations pour que l'on comprenne, bien-aimé, que tout dépend de lui. Et que si ce n'est pas par lui, nous courons tout droit à la perte. Nous pouvons aujourd'hui, bien-aimé, prendre toutes les décisions que nous voulons. Mais chacun sera responsable. La situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, si elle est voulue de Dieu, la Bible dit que toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8, 28. Dieu, il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Si c'est permis par Dieu, gérons cette situation-là avec les moyens de Dieu et ne faisons pas les orgueilleux bien-aimés en disant « Je suis fort, je pourrai gérer. » David nous a donné le conseil. « Seigneur, je suis comme un enfant sevré. Moi, je dépends de ma mère. Voilà, je n'ai pas un cœur qui s'enfle. Je n'ai pas un regard hautain. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop élevées pour moi. » Et chacun à notre niveau, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas bien-aimé, il y a des choses dans lesquelles Dieu nous a placés où il manifestera que si on ne passe pas par lui, on ne résoudra pas le problème. Il y a des choses qui nous dépassent et nous avons besoin de Dieu. Alors, le Seigneur a dit à Josué, Josué 1, chapitre 8, alors que Moïse venait de mourir, Josué devait prendre la relève de faire entrer le peuple dans la terre promise. Il lui a dit, si tu veux réussir, si tu veux gérer les responsabilités que je te donne, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Ce qui nous dépasse, bien-aimés, on peut le gérer avec les moyens que nous donne la parole de Dieu, avec la présence de Dieu dans notre vie. Dieu ne nous laissera pas orphelins, il ne permettra pas qu'on soit tenté au-delà de nos forces, mais ayons l'humilité de dire « Seigneur, je suis dépassé, aide-moi ». À Jésus-Christ seul soit la gloire au siècle des siècles. Éternel Dieu de gloire, tu es vivant. C'est vrai, Seigneur, comment ne pas te louer, Seigneur, comment ne pas t'adorer. Seigneur, nous reconnaissons aujourd'hui encore que nous dépendons de toi. Seigneur, tant de fois nous avons expérimenté des situations, quelquefois lorsque les enfants étaient malades, que les médecins ont été limités, Seigneur, dans certaines situations, tu as manifesté que tu étais au-dessus de tout. Nous avons voulu forcer, Seigneur de gloire, en cherchant par nos propres moyens, Seigneur de gloire, en consultant des marabouts, Seigneur, en allant voir des guérisseurs, au lieu de crier directement à toi. Nous avons marché comme des orgueilleux qui ont voulu, Seigneur de gloire, marcher avec leur propre intelligence. Seigneur de gloire, mais nous voyons dans Romains chapitre 1, Seigneur, que l'homme qui se croit intelligent, Seigneur de gloire, a une fin tragique. Seigneur, c'est de toi dont nous avons besoin. C'est toi qui es notre force. C'est toi qui es notre gloire. C'est toi qui relèves notre tête, Seigneur. Dans le nom de Jésus, tu donnes l'intelligence aux sages. Alors, Seigneur de gloire, donne-nous l'intelligence pour que nous puissions comprendre comment nous humilier devant toi. Dans le nom de Jésus, que nous puissions comprendre comment nous humilier devant toi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur de gloire, une fois pour toutes à comprendre que c'est toi seul qui es Dieu, que tu es au-dessus de tout et que sans toi, l'homme ne peut rien faire, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur de gloire, viens au secours de notre incrédulité, Seigneur, qui nous pousse, Seigneur de gloire, à tomber dans l'orgueil et à tomber dans une autosuffisance, Seigneur. Nous voyons, Seigneur de gloire, combien les choses de ce monde, Seigneur de gloire, si nous ne les gérons pas avec toi, peut nous amener à la mort, Éternel de gloire. Nous voyons comment l'intelligence de l'homme l'a amené, Seigneur de gloire, à faire pousser de la drogue, Seigneur, à fabriquer des armes, Seigneur de gloire, à fabriquer des maladies chimiques, Seigneur. Voilà là où a amené l'intelligence de l'homme parce qu'il s'est cru sage, Seigneur, et il est devenu fou. Seigneur, nous ne voulons pas être comptés parmi les fous, Seigneur de gloire, mais nous voulons être comptés véritablement parmi les enfants de Dieu. Seigneur, nous avons besoin de toi. Dans le nom de Jésus, Seigneur de gloire, viens encore nous soutenir, Seigneur. Viens encore nous fortifier, renouveler notre intelligence. Dans le nom de Jésus, tu es notre Dieu, Seigneur de gloire, et c'est devant toi que nous venons nous humilier, Seigneur. Dans le nom de Jésus, c'est toi qui es notre gloire. C'est toi qui relèves notre tête, Seigneur. À toi seul soit la gloire. À toi seul soit la gloire, Seigneur. Dans tous les siècles des siècles. Agrée encore ce matin, Seigneur de gloire, le fruit de notre louange et de notre adoration, Seigneur. Afin que ton nom seul soit élevé, que ton nom seul soit glorifié. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Hallelujah.